Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans 9 mètres carrés. Mais c'est quoi? Un espace infiniment petit. Parfois, la douche est sur le palier. On y met un lit. Quand on peut, un minuscule bureau. Seule satisfaction, regarder depuis sa fenêtre les toits de Paris. 9 mètres carrés, c'est le cliché, pas cliché, de l'étudiant qui galère. En dessous de 9 mètres carrés, c'est illégal, selon la loi. Bref, 9 mètres carrés, c'est l'espace d'un étudiant durant un laps de temps plus ou moins grand. Et malgré toutes ces contraintes, se produiront des conversations, des questionnements, des peurs, des rêves qui mèneront un jour au diplôme. Alors au journal étudiant Sorbonne, on s'est dit que si on devait nous donner la parole, ce serait bien qu'on s'appelle 9 mètres carrés, histoire de souvenirs. Dans ce podcast, notre fine équipe d'étudiants en galère se retrouve à chaque épisode pour bavarder d'un thème, d'un questionnement, d'un phénomène, et on a plein de choses à en dire. Ce bouillonnement créatif est produit par Radio Grande Contrôle.
Salut à toutes et à tous, c'est un plaisir de réaliser à nouveau un 9 mètres carrés dans un 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, je ne sais pas trop la dimension dans ce studio. Nous sommes comme à chaque fois dans ce beau studio translucide où on aperçoit aujourd'hui d'immenses visages européens de l'expo We Are Europe qu'on peut voir à travers le studio. Car en effet, au mois de mai, la thématique à Grande Contrôle, c'est l'Europe. Alors nous, en tant qu'étudiants, le mois de mai, pour nous, c'est surtout les examens, ceux qui attendent les résultats, d'autres passent des concours, et puis certains cumulent déjà plusieurs jobs d'été. Et dans cette période de l'année intense, on a pensé à vous, car cet épisode s'adresse directement aux jeunes, même si tout le monde est bien sûr le bienvenu. Les jeunes sont-ils européens ? Ça ne vous aura pas échappé, les élections européennes approchent, la question de l'Europe s'immisce partout, mais sommes-nous vraiment européens ? Au-delà de notre identité, nous avons une identité en plus, l'identité européenne. Cette question, elle a jailli d'une actualité quand nous avons vu ces jeunes lycéens manifester à la suite du discours de Greta Thunberg, militante suédoise âgée de 16 ans. Comme une traînée de poudre, le mouvement s'est répandu dans tous les pays et à en voir les images, pour ma part, j'avais l'impression de voir ce qu'était l'identité européenne. Mais passons aux choses sérieuses, car je ne suis pas toute seule sur ce plateau. Il y a Anaïs. Salut Anaïs.
Bonjour.
La dernière fois, tu étais venue nous parler d'un tiers-lieu. Aujourd'hui, tu reviens sur le plateau pour débattre avec nous. Peux-tu te représenter ?
Je m'appelle Anaïs, je suis en master lettres multimédia à la Sorbonne et voilà, je suis passionnée de journalisme, écolo et féministe. Voilà, je pense que ça me décrit pas mal et très heureuse d'être là aussi.
Super. Et il y a aussi Tom, donc une nouvelle recrue. Dis-nous tout. Qui es-tu, Tom ?
Bonjour, je suis Tom. Donc, je suis étudiant en histoire et en anglais à Sorbonne Université. Et je suis aussi membre de l'association ON, dans laquelle on travaille sur toute l'actualité étudiante, ce genre de choses.
Et là, cette fois-ci, tu es sur le plateau de 9 mètres carrés.
Exactement.
Au programme dans 9 mètres carrés, se sent-on français ou européen quand on part étudier dans un pays de l'Union européenne ? Anaïs s'est entretenue avec deux jeunes femmes qui ont voyagé dans le cadre de leurs études. L'identité européenne ne serait-elle pas écolo ? Depuis la vague de manifestations qui sonne l'alerte de l'urgence climatique, les jeunes se sont mobilisés dans toute l'Europe. Tom s'est posé la question et entretenu avec Olwen, président de l'association de la Sorbonne, LUPA, pour agir sur le développement durable. Enfin, si l'identité européenne est peut-être difficile à saisir, une chose est sûre, l'Europe participe à la construction de notre identité. Nous recevrons Mathieu Roumégous, directeur de l'agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport à l'agence du service civique. Bienvenue dans 9 mètres carrés. Pendant vos dernières vacances à Rome, Berlin, Londres ou Athènes, vous vous êtes senti comment en discutant avec les locaux ? Français ou européen ? Français par votre langue, européen par votre culture ? Anaïs, tu as rencontré deux étudiantes pour comprendre l'expérience de leurs études à l'étranger et surtout cette approche de l'identité européenne.
Oui, alors quand on m'a dit identité européenne, moi j'ai tout de suite pensé à deux de mes amies qui sont étudiantes, l'une à Sciences Po, Aliénor, qui a fait un stage à Bruxelles dans une ambassade française de défense militaire, et elle fait une formation à Sciences Po. Et elle est partie donc à Bruxelles pendant 6 mois. Et Diane, qui est à l'ISIT, elle fait un management interculturel. Elle étudie donc la traduction et les cultures en général, surtout européennes. Elle est partie 6 mois en Espagne, dans le sud, à Alicante. Mmh. Et voilà, j'ai tout de suite pensé à elles parce qu'elles sont très en lien avec les relations interculturelles entre les pays européens. Et elles m'ont fait vraiment... Enfin, pour moi, elles incarnent cette identité européenne parce qu'elles sont attachées à certaines valeurs. Et je trouve que le voyage, c'est une des identités européennes. C'est pour ça que j'ai voulu centrer cet entretien sur le voyage et comment on se ressent quand on est jeune et qu'on part dans un pays européen.
Eh bien, on va écouter ça.
Alors, c'est vrai que dans le cadre de ma formation, j'ai été amenée à partir 6 mois à l'étranger. Donc, pour moi, c'était une première. Donc je me suis rendue à Bruxelles, ce qui était la destination que je voulais absolument faire, non seulement sur le plan des études, sur le plan scolaire, puis sur le plan personnel également. J'ai des amis que je connais depuis fort longtemps qui sont justement à Bruxelles, qui m'ont permis de découvrir la ville. Et dans le cadre de ma formation, c'est vrai que c'est à Bruxelles où vraiment le cœur de l'Europe palpite, au sens propre du terme. Et c'était intéressant de voir dans cette ville, qui est justement la deuxième ville la plus polyglotte du monde, l'importance des questions européennes sur tous les plans. C'était vraiment très enrichissant de faire ce stage de 6 mois dans une ambassade française auprès des affaires européennes, et j'ai beaucoup appris sur justement l'identité européenne et sur la culture qui se forge en fait constamment à mesure que la société évolue.
Toi Diane, comment s'est passé ton voyage en Europe pendant ton semestre Erasmus?
Alors ça s'est bien passé. Alors moi, ce qu'il faut préciser, c'est que j'étais à Alicante, qui se situe dans le sud de l'Espagne, donc près de Valence. Et la particularité là-bas, c'est qu'en fait, beaucoup de jeunes parlent justement le valencien, qui ressemble énormément au catalan. Donc il y a une forte identité justement valencienne finalement. Et beaucoup de jeunes espagnols justement ne se sentent pas européens.
C'est vrai que d'une part, comme j'étais en colocation avec un étudiant belge en journalisme, il était très intéressé justement par toutes les questions politiques qui touchent justement à la vie de la société en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Hollande et en Europe de manière générale. Donc il parlait néerlandais, il parlait français, il parlait anglais, il y avait déjà un premier contact dans la sphère privée. Et durant mon stage, j'ai travaillé avec des stagiaires, alors essentiellement français, vu que j'étais dans une institution française auprès de l'Union européenne. Donc c'est vrai que dans le cadre du travail, j'ai surtout parlé avec des francophones pour des raisons évidentes. Mais j'ai pu me rendre justement, comme c'était dans une représentation militaire et de défense, j'ai pu me rendre à des comités militaires de l'Union européenne où j'ai vu les représentants militaires des 27 États membres de l'Union européenne. Et donc là, on sent vraiment la diversité des politiques et puis les confrontations aussi qui en résultent, parce que tout n'est pas idyllique et tous les pays de l'Union européenne ne sont pas d'accord sur les questions d'ordre politique, stratégique et militaire. Donc ça, je l'ai vu depuis ma position de stagiaire, et ça m'a fait penser justement à une phrase que disait Jacques Delors en disant que l'Union européenne était une Ferrari conduite par 27 personnes mais à des vitesses différentes. Donc c'est vrai que là, dans le champ du travail, c'était frappant.
Globalement, l'image du français à l'étranger est assez négative, puisqu'on est perçu comme des personnes assez méprisantes qui justement n'aiment pas trop se mélanger avec les autres. Beaucoup d'étudiants français finalement restaient entre eux. C'est pareil aussi pour les étudiants italiens ou allemands. Donc finalement, on n'accède pas tellement à cette identité européenne. Sur le moment, je me suis sentie plus française et j'aimais bien jouer justement de cette différence. Mais après mon voyage, justement, je me suis sentie plus européenne. Donc il y a eu une espèce de cheminement parce que j'ai pu lier des amitiés assez fortes avec une Italienne et plusieurs Espagnols. Mais je pense que si on n'arrive pas à lier d'amitié avec d'autres nationalités, c'est très difficile de se sentir justement européen.
Comme mon colocataire était belge et était étudiant dans une université en Belgique, à Bruxelles, j'ai pu participer justement à des soirées étudiantes avec des Belges, des Allemands, des Italiens, des Hongrois. Donc c'était vraiment très plaisant. Donc je finissais par oublier que j'étais française. Voilà, les différences tendaient à se gommer. Dans un premier temps, le premier lien entre la France et la Belgique, ça reste quand même la langue qui est partagée justement et qui est comprise par les les deux pays. Surtout dans la partie wallonne, comme à Bruxelles, justement, c'est une majorité de personnes francophones qui vivent et évoluent dans la ville. Donc c'est vrai que voilà, il y avait ce ciment sur lequel justement on s'appuyait pour ensuite discuter et puis découvrir la ville en elle-même. J'ai trouvé les Belges, pour ma part, alors, très patients, très à l'écoute, ce qui change par rapport à ce qu'on voit en France ou dans d'autres pays comme en Angleterre ou en Italie. Ce que j'ai aimé aussi à Bruxelles, c'est l'ambiance un petit peu de quartier.
Et on dit souvent que les jeunes aujourd'hui sont apolitisés ou n'ont pas de conscience politique et s'occupent pas des européennes.
Moi, je pense pas que les jeunes soient apolitisés, comme tu l'as dit. Je pense qu'ils sont juste dégoûtés de façon générale. Moi, j'ai pu parler énormément de politique avec les jeunes de tous les pays d'Europe confondus. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un intérêt de parler, par exemple, avec mon amie italienne, de la situation, avec le populisme, etc. Il y a vraiment un dégoût général de la politique, une incompréhension et un sentiment d'impuissance, surtout vis-à-vis des jeunes qui n'arrivent plus à faire face à tous les enjeux actuels, je pense.
Et après, est-ce qu'il y a un sentiment de communauté européenne ? Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on a une conscience d'unité des États ? Oui.
Je pense qu'il y a une prise de conscience européenne. Justement, voilà, dans le cadre des élections européennes qui vont avoir lieu cette année, on le sent tous, hein, sans être forcément un expert ou politologue confirmé, on sent vraiment une tension dans les discussions, dans le durcissement de certaines mesures politiques, que voilà, l'année 2019 va marquer un tournant, avec aussi la question du Brexit qui est toujours en jeu et qui n'est toujours pas réglée, qui va donc justement être un bouleversement dans l'histoire de l'Union européenne. Et donc là, on sent que l'UE et sa culture vont vraiment être mises à l'épreuve à partir donc, d'octobre 2019, si la sortie du Brexit aura lieu.
Moi, je pense que les jeunes ne s'incluent pas dans cette notion d'Europe, malheureusement, et qu'il n'y a pas de véritable identité européenne. Je pense que, je ne sais pas comment dire, mais c'est un ensemble de différents pays qui partagent certaines similarités, mais en réalité, chaque culture est unique. C'est assez difficile de mettre en place une identité européenne. Je pense qu'en plus, ça peut être vu pour certains pays comme une insulte, en fait, finalement. Parce que, par exemple, j'ai des amis qui sont partis aux États-Unis. Et beaucoup d'Américains, pour eux, par exemple, la France ou l'Allemagne, c'était la même chose, c'est l'Europe. Et en fait, non, c'est pas ça. Enfin, on peut pas dire qu'un Français, ce soit la même chose qu'un Allemand. Donc je pense que c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une véritable identité européenne.
Alors c'est vrai que bon, pour ma part, je vais peut-être être un petit peu plus optimiste que Diane. Alors je ne sais pas si les Européens incluent justement cette identité européenne entre eux. Pour ma part, je pense qu'ils le font, mais en fait inconsciemment. Il y a forcément un attachement profond pour l'histoire du pays qui nous a vu naître, forcément. Mais c'est plutôt dans les pratiques, dans les coutumes.
Et c'est quoi ? Est-ce que vous pouvez donner des exemples de ce qu'on partage au niveau européen ?
Par exemple, je pense, rien que sur le plan de la vie quotidienne, voilà la nourriture, ce que vous avez dans l'assiette, en général. Il y a une traçabilité, justement, des produits qui sont, justement, produits, développés, distribués en Europe. Donc, ça a été suivi, justement, par plusieurs États membres. Et donc, voilà, vous mangez, en fait, de l'Union européenne, littéralement. Donc, alors, certes, c'est matériel, c'est pratique, mais ça existe également. Et même sur le plan culturel aussi, vous avez régulièrement des festivals, justement, des foires du livre européen, où vous voyez différents éditeurs, différents auteurs, justement, de langue espagnole, allemande, anglaise, française. Et donc là, vous pouvez justement assister à ce bain de culture.
Oui, moi j'ai un exemple très concret en tête qui m'a fait me dire que j'étais contente d'être européenne, c'est la monnaie, c'est l'euro.
C'est assez mitigé leurs avis à tes deux amis.
Ouais, et je trouvais ça intéressant parce qu'au début, elles m'ont dit que leur voyage, l'Europe, ça faisait beaucoup de sens pour elles. Et en fait, c'est surtout sur l'identité européenne parce que Alénor, elle disait qu'on partageait quand même des choses avec la culture. Elle parlait de foire aux livres, elle parlait de d'émissions télévisées. Tandis que Diane, comme on en parlait tout à l'heure en off, c'est trop disparate. Et je voulais leur poser la question. En Europe, il y a trop de pays. Et on n'arrive pas à s'unir sur quelque chose de commun parce qu'on n'a ni la langue, on a la monnaie, sauf que
pas pour tous.
Voilà, pas pour tous. L'Angleterre va peut-être partir, donc c'est vrai que ça va peut-être s'aligner sur quelque chose. Mais c'est vrai que même au sein d'un pays, je trouve qu'il y a des cantons où on parle un dialecte, même en France, les régions, c'est pas du tout pareil. Donc comment on peut s'aligner et comment on peut penser une entité européenne et même à le définir? Les deux ont peiné à dire qu'est-ce que c'est une entité européenne.
Même si elles ont voyagé en Europe. Parce que le sujet, c'était ça, c'était d'essayer de se rendre compte si est-ce que quand on voyage au sein même de l'Union européenne, est-ce que là, on ressent cette identité-là?
Et là, elles étaient d'accord. Elles disent, je pense que par le voyage, on arrive à accéder à cette identité. Parce que pour elles, elles disaient que c'était une chance, que c'était une opportunité énorme, qu'on avait des partenariats entre les universités, entre les écoles, et que c'était, c'était une vraie chance de pouvoir partir et sans être contrôlée. Donc, il y a quelque chose en tête, sans barrière.
Une certaine liberté, oui.
Voilà. Et je pense qu'il y a une liberté qui peut-être fait partie de ces entités. Alors, ce que moi, je dirais, parce que moi, même quand je voyage au sein de l'Europe, je suis toujours envoyée à mon identité française. On va me dire, parce que tu as certaines mimiques, parce que tu parles comme ça, tu es apparentée à être française.
D'accord, donc ça veut dire que même dans le cadre d'un voyage, pas forcément des études, là, tu te sens uniquement française, tu te sentirais jamais...
Sauf une fois, je suis allée à Malte et on sait que la langue, c'est entre l'italien et une sorte d'autre langue, enfin un mélange d'anglais-arabe. Et c'est là où je me suis sentie européenne parce que déjà, la population là-bas, c'était très divers. Et là, je me suis sentie... En plus, c'est une île. Donc pour le coup, là, j'ai senti, c'est l'Europe. Malte est dans l'Europe. Mais sinon, j'arrivais pas à ressentir...
Et toi, Tom, est-ce que c'est un sentiment... Tu étais à Copenhague dernièrement.
Oui.
Alors, est-ce que tu t'es senti français ou européen?
Mais je pense vraiment que ce n'est pas un problème qu'on ait cette différence de dialecte ou de frontières, parce qu'on a une histoire commune, une culture commune. Et à Copenhague, rien que dans l'architecture, on ne ressent pas quelque chose de très différent de ce qu'on a connu. Alors évidemment, c'est peut-être plus propre, les gens font plus souvent le vélo. Mais en général, on ressent cette identité européenne parce que je ne pense pas qu'avoir une identité française et une identité européenne soient incompatibles. Et on peut très bien avoir les deux, comme on a des Bretons qui se sentent aussi bien bretons que français. Mmh. Bon, après, ça se discutera avec les Bretons. Mais c'est quelque chose qui, selon moi... est totalement compatible. Et donc, quand je suis allé à Copenhague ou quand je vais dans d'autres pays en Europe, je ressens cette identité européenne parce que beaucoup plus que quand on va voyager sur un autre continent comme les États-Unis, où là, vraiment, il y a un dépaysement dans la manière dont on se nourrit, dans l'architecture. Parce qu'aller à Copenhague, il y a plus de similitudes entre une ville d'un point de vue architectural comme Copenhague et Paris. Que comme Paris et New York, en termes de construction. La population que tu vas rencontrer là-bas. Et c'est aussi à ces signes-là que je m'identifie à une population.
Au code culturel.
Au code culturel et à la manière dont on va s'habiller, la manière dont on va ressentir la musique, la publicité, le cinéma. Ce genre d'endroit, ces lieux culturels, en fait, on s'identifie plus en Europe qu'on va s'y identifier quand on est aux États-Unis, au Japon, en Namibie, je ne sais pas.
Non, mais je te rejoins assez là-dessus, parce que je trouvais, moi, en tout cas, qui nous rapprochait de la culture européenne, c'est d'avoir, en fait, un peuple qui parle plusieurs langues. Et quand on voyage, moi, par exemple, cet été, j'étais en Italie, en Grèce. En Grèce, je me suis vraiment sentie européenne, parce que, en fait, les Grecs parlent très bien anglais. Enfin... Du moins, ils essaient, mais je veux dire, moi, je ne parle pas grec. C'est rare. C'est une langue qui n'est pas forcément très, très parlée. Et je me suis sentie très à l'aise. On me posait beaucoup de questions sur la France. On me posait beaucoup de questions au niveau de la politique, parce que la Grèce et l'Europe et l'Union européenne, c'est une histoire particulière. Et c'est le fait que pendant nos débats, il y avait ce débat-là de l'Union européenne, etc. Je trouvais qu'on avait quelque chose de commun, alors que peut-être dans d'autres pays, il n'y aurait pas eu ça. Donc, je pense que ça dépend... de la culture européenne du pays. En France, on a quand même une culture européenne. Et donc, comme tu disais, Tom, on peut très bien avoir l'identité française, l'identité européenne, comme une identité étudiante. Enfin, on choisit de prendre celle qu'on veut au moment où on a besoin de la prendre, en fait.
Et je ne pense pas que le voyage soit la seule condition dans laquelle...
Oui, ce serait triste si voilà. C'est uniquement quand on voyage. Alors après, moi, je vais être un peu négative, mais c'est vrai que je me sens pas très européenne en France. Parce que c'est pas trop au cœur des débats. Nous, notre génération qui avons grandi, l'Europe, c'était quelque chose dont parlaient beaucoup les autres générations. C'était très mal expliqué à l'école. C'est très compliqué. Et par contre, il y a quelque chose d'intéressant dont tu vas justement nous parler, Tom, c'est que...
Le climat, les luttes, en fait. Enfin, lutte, ça fait très coco, mais la conjecture dans les motivations et les engagements politiques. Et
c'est ce qu'on disait justement en introduction.
Au-dessus des vieux volcans, glissent des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement, de nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs, au-dessus des capitales. Des idées fatales, regarde l'océan.
Voyage,
voyage, voyage,
voyage, voyage, voyage.
Plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage,
voyage, voyage, voyage.
Dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage,
voyage, voyage, voyage.
Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien.
Tom, c'est un peu l'étudiant hyperactif. Il sait tout de toutes les universités. Il passe son temps à se mettre au courant de l'actu étudiante. Il connaît absolument tout le monde. Alors, quand on a fait ce sujet, les jeunes sont-ils européens ? Tom a un peu galéré. Pourquoi ? Parce qu'il avait plein d'idées dans tous les sens. Est-ce qu'on va voir un prof pour parler du Brexit ? Est-ce qu'on va demander aux étudiants étrangers en France de nous parler d'Europe ? Puis, miracle encore, une autre idée que tu vas nous expliquer. Mais voilà, c'est comme ça que tu fonctionnes, Tom. Et là, tu as trouvé finalement ton sujet aujourd'hui.
Oui.
L'Europe pour les jeunes, en ce moment, est-ce que ce n'est pas tout simplement et puissamment l'écologie ?
Eh bien oui, est-ce que ce n'est pas ça, la jeune Europe, finalement, celle des 18-30 ans, celle de demain, finalement ? Dans un monde où on ne parle que de Brexit et de gilets jaunes, est-ce qu'au fond, ce qui ne nous intéresse pas vraiment, c'est la jeunesse autour du climat ? 20 minutes disent oui à cette question. Ils se sont basés sur un sondage qui a été publié le 26 avril dernier. L'enquête était menée par OpinionWay auprès des 18-30 ans et elle révélait que 58% d'entre eux considèrent l'environnement comme la mission prioritaire de l'Europe à l'approche des élections européennes. D'ailleurs, si on reste basé sur ce même sondage, 75% d'entre eux ont déclaré avoir une pensée positive sur la construction européenne. C'est beaucoup et en même temps, c'est 7 points de moins par rapport à 2017. Alors, est-ce qu'on assiste au renforcement d'une identité européenne sous l'étendard de l'écologie ? Pour le savoir, j'ai interrogé Olwen Fallon, qui est président de l'UPA. Donc l'UPA, c'est les universitaires planteurs d'alternatives. C'est une association écolo à Sorbonne Université, parmi d'autres. Et voilà ce qu'il a répondu.
Bah, ce mouvement, il est quand même mondial. Hein. Le mouvement pour le climat, il est mondial. Donc je ne dirais pas que ça renforce une identité européenne. L'Europe, c'est aussi l'identité européenne, c'est des valeurs, des idées, des valeurs. Et donc... la place, je pense que c'est surtout déjà faire prendre conscience au grand public des enjeux, des crises environnementales qui ont lieu et des enjeux qui en découlent. C'est comme ça qu'on va réussir à amener l'écologie, pas qu'au sens discours, aussi au sens acte. Parce que si le grand public, les électeurs sont sensibilisés à l'écologie, forcément les décisions arriveront derrière, parce que les gouvernements... Les élus vont vouloir suivre le mouvement. L'action de petites associations comme ça au niveau local, c'est mobiliser et en parler pour convaincre, faire un peu une cascade quoi, pour que ça, et puis que les décisions arrivent réellement.
Alors, des étudiants engagés comme Olwen, il y en a beaucoup. Et la plus connue, on en avait parlé en introduction, c'est Greta Thunberg, qui est une militante suédoise qui avait 15 ans lorsqu'elle a commencé son combat, qui en a 16 aujourd'hui. Oui, c'est une 2003. son combat, ça nous donne un coup de
vieux.
Elle
est plus jeune que toi.
Oui, c'est
fou, ça, c'est rare. Hein.
Ça, ouais, je me sens vieux, c'est horrible. Son combat a commencé à la rentrée du 20 août 2018, lorsqu'elle a refusé de faire sa rentrée scolaire. En fait, elle a déclaré faire grève, et on était quand même en août, et elle déclarait qu'elle ferait grève jusqu'aux élections générales du 9 septembre. Sa première revendication, c'était un gouvernement suédois qui réduit les émissions de dioxyde de carbone. La presse internationale s'est emparée de l'histoire de Greta, et le mouvement a été impulsé. Il s'est décliné en Allemagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, en Finlande et au Luxembourg. Donc vraiment dans beaucoup de pays, dans toute l'Europe, on pourrait le dire. Et même en Australie, d'ailleurs, je sais que ça sort un peu du sujet, mais il faut le noter. L'Australie a rejoint cet élan écologique. Donc c'est pour dire que vraiment, cette histoire, elle a été impulsée dans le monde entier. Et à la COP21, à la COP24 de décembre, Greta, elle s'est adressée aux Nations Unies. Et elle a insisté sur la gravité du problème et surtout sur l'impact qu'il aura pour les générations futures. Et je cite... Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout et pourtant, vous leur volez leur futur. En 2078, je célébrerai mon 75e anniversaire. Si j'ai des enfants, ils passeront peut-être cette journée avec moi. Peut-être qu'ils me poseront des questions sur vous. Peut-être qu'ils me demanderont pourquoi vous n'avez rien fait alors qu'il était encore temps d'agir. Fin de citation. Là-dessus, Olwen nous a partagé son ressenti sur cette adolescente qui engueule les dirigeants de ce monde. Écoutez.
Greta Thunberg, elle est... Elle est bien dans le sens où elle a réussi à mobiliser autour d'elle. On entend parler de questions d'écologie parce qu'il y a une tête qui a percé. Un mouvement derrière a été créé. Et donc ça permet d'amener les questions écologiques sur le premier plan. Pour moi, un mouvement écologique ne devrait pas être représenté par une figure. La figure est importante parce qu'elle arrive à mobiliser, mais il ne faut pas lier ce mouvement avec Greta Thunberg. C'est pas... L'écologie politique, elle a beaucoup de directions, elle a beaucoup d'idées. Et donc, une seule personne représente ça. Pour moi, ça ne représente pas la mixité de l'écologie. Et
je sais pas. Et donc, pour toi, Greta Thunberg, elle incarne pas à elle seule tout un mouvement?
Non, elle peut pas. Une personne ne peut pas incarner un mouvement.
Est-ce qu'il y a des figures politiques qui ont essayé de s'approprier ce
mouvement? Il y a des figures politiques qui ont essayé de s'approprier le mouvement. Ça a été balayé. Par le mouvement lui-même. Par exemple, quand Greta Thunberg est venue à Paris, des représentants français, parisiens, ont été invités à l'Élysée pour la venue de Greta Thunberg. Et la proposition a été refusée. C'est toujours dans ce sens-là où le mouvement écolo n'a pas, en tout cas étudiant, n'a pas à avoir une figure.
Ces figures qui parlent au nom du mouvement, il y en a beaucoup. Il y avait par exemple Ségolène Royal, il y a quelques semaines. C'est l'auteur de « Ce que je peux enfin vous dire ». Et dans ce que je peux enfin vous dire, elle parle à la fois de son combat féministe, mais aussi surtout de son combat pour l'écologie. Elle nous en a parlé lors d'une conférence à la Sorbonne. Et la lutte contre le glyphosate était entre autres l'un des thèmes majeurs de son livre et de son combat environnemental. Pourtant, ce que Olwen déplore, c'est qu'à l'approche des élections européennes, l'écologie est loin d'être au cœur du débat politique.
L'écologie, elle est arrivée au cœur du débat politique, mais assez récemment. Et donc, ça reste du débat politique. Donc ça reste des discours, ça reste des paroles pendant des débats. Et en termes juridiques ou en termes de décisions politiques, l'écologie n'est pas du tout représentée. Voilà. Le discours écologique européen aujourd'hui, il sert juste à gagner des voix. Mais les décisions derrière qui sont essentielles à prendre ne sont pas prises et n'existent pas.
Alors finalement, devant l'ampleur de ces enjeux climatiques, devons-nous nous mobiliser pour sauvegarder le climat en France ou dans le monde entier? C'est une question à laquelle Olwen a répondu.
La mobilisation pour le climat, elle doit être mondiale. Se mobiliser au niveau national, c'est bien parce qu'on parle la même langue, c'est plus facile pour communiquer, etc. Sauf que les questions écologiques, faut les voir au niveau de la biosphère, globale, au niveau de la Terre. Asselineau, il avait dit que pendant un débat avant les européennes, il avait dit que chaque pays devait s'occuper de son environnement et de son réchauffement climatique. C'était à peu près dans ces termes-là. Et que l'écologie doit s'arrêter aux frontières. Donc chaque pays doit prendre seul des décisions ou ne pas en prendre du coup. C'est complètement débile parce que les questions écologiques, c'est la terre, c'est la biosphère, c'est une pelote de laine. Et donc l'écologie, ça ne s'arrête pas aux frontières. L'écologie, c'est pas le nuage de Tchernobyl.
Pour Olwen, donc, la question ne se pose même pas car le climat, c'est un problème global. Du coup, je lui ai demandé comment il définissait l'identité européenne et s'il se sentait lui-même européen. Et il nous apporte une réponse assez troublante.
Bah pour moi, l'identité européenne, c'est un regroupement de différentes nationalités, de différents peuples autour de valeurs communes, des valeurs humaines. Et donc, pour moi, c'est surtout ça, l'identité européenne. Mais l'Europe d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus économique que sociale ou éthique. Par exemple, ce qu'on voit en Pologne ou en Italie avec l'émergence l'arrivée au pouvoir des gouvernements d'extrême droite, quand je vois ça, bah, de ce point de vue-là, je ne me considère pas européen. Pour moi, l'Europe, c'est des valeurs humaines. Et donc, quand l'Europe devient extrême droite, eh ben, je ne suis plus européen. Voilà.
D'accord. Donc, tu ne te sens pas européen aujourd'hui ?
Beaucoup moins qu'il y a quelques années, oui. Bah, pour moi, l'identité européenne, c'est... oui, ça regroupe des idées, ça regroupe des valeurs. Et après, quand on regarde d'un point de vue général, quand on regarde l'Europe d'en haut, bah, c'est des peuples très différents qui viennent de partout. Donc... Alors, trouver une identité commune, c'est quand même très compliqué. Et cette identité commune, c'est la paix et c'est les valeurs humaines. Et c'est ça aussi la force de l'Europe, c'est qu'on est tellement différents. Et pourtant, on a réussi à construire quelque chose ensemble. Et on a arrêté la guerre. Mais l'Europe a quand même dévié, a beaucoup dévié sur le libéralisme. Et donc ça, c'est quelque chose qui pose énormément de problèmes parce que... Parce que finalement, ce qui est le fond de l'Europe, les valeurs commencent à disparaître et donc ça se désagrège petit à petit.
Alors si finalement, ce qui nous lie aux Européens et aux Européennes, au-delà des frontières, ce sont nos valeurs et nos combats, est-ce que ce n'est pas cela qui va faire notre identité ? Selon Olwen, non, parce que selon lui, l'identité, elle ne se définit que partiellement par les valeurs. Une identité, ce n'est pas seulement des normes et des valeurs communes, ce n'est pas seulement un engagement commun. Dans ce cas-là, on pourrait tout aussi bien avoir une identité associative.
Oui.
Et une identité, c'est pas que ça, c'est aussi un partage culturel, politique, historique. C'est surtout un sentiment d'appartenance. Et ce sentiment, chez les jeunes d'Europe, on le ressent pas forcément. Selon Olwen, l'erreur est politique, mais c'est peut-être ces grèves écologiques, justement, qui sont le premier pas vers un sentiment d'appartenance à l'Europe.
Je crois qu'Anaïs, ça va te faire rebondir cette petite chronique, cet entretien avec Olwen.
Oui, alors moi je pense que tous ces débats, ils nous montrent déjà que les jeunes sont conscients de l'ampleur du problème et que déjà il y a des initiatives qui sont portées au niveau européen. Et Greta, elle a fait beaucoup parler, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais elle a eu pas mal de détracteurs à ses trousses en disant qu'elle était déjà connue, donc elle avait été aidée par ses parents. Et je trouve que ça a décrédibilisé son combat et son image. Mmh. Et je pense que c'est hyper dommage parce que les jeunes, ils avaient trouvé un modèle qui était jeune, qui n'était pas un politique. Mmh. Et je trouvais ça super intéressant que ce mouvement soit porté déjà par, comme tu dis, en 2003. Donc plus jeune que nous et qui est hyper sensé. Je ne sais pas si vous l'avez entendu en vrai, mais elle m'a frappée. Vraiment en pleine face, quoi. Et voilà, je suis admirative de son combat. Je sais pas si tu peux commenter sur ça.
Je comprends aussi l'argument d'Olwen par rapport à ça, qui est de dire qu'il n'y a pas vraiment besoin d'une figure. C'est, les politiques s'empressent d'essayer de devenir la figure de ce mouvement étudiant. Enfin, s'empressent. Même si Greta a impulsé un mouvement, qu'elle n'en soit pas la figure parce qu'elle a été détractée, c'est pas un problème. Le mouvement, il est présent et justement, il est porté par une masse d'étudiants, et c'est peut-être un peu utopiste, mais quand je vais redonner un exemple qu'avait donné Olwen, quand le gouvernement a accepté de recevoir trois représentants de ce mouvement, les étudiants n'ont pas voulu parce qu'ils n'ont pas de représentants en fait. C'est vraiment une masse pour le coup, et c'est ça aussi qui définit bien notre identité européenne, c'est que on est un groupe, on n'a pas une figure qui va devenir une figure suédoise du coup, qui va incarner la Suède peut-être plus que l'Europe. Non, c'est tous les étudiants d'Europe qui se dressent comme ça pour lutter contre le climat, enfin pour le climat.
Oui, ce qui est assez incroyable, c'est que alors le climat, une chose est sûre, c'est que nous, enfin moi je suis la génération 98, quand on était au lycée,
bien avant 2003. Donc.
Eh bien oui, ce qui est très jeune. Mais en tout cas, la question de l'écologie, non. Enfin, elle n'était pas au cœur de nos cours, elle n'était pas au cœur de nos discussions. Les seules choses qu'on avait, c'était le documentaire sur Yann Arthus-Bertrand qui passait sur France 2 le soir et qu'on regardait avec nos parents. Et tiens, il faut faire attention et pas trop laisser couler l'eau dans le, couler l'eau du robinet. Et ça, en fait, c'est bon, voilà, c'était pas une énorme prise de conscience, mais ce que je trouve assez incroyable, c'est que moi, quand j'avais 15 ans, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir mon bac, de terminer, de faire ces choses-là. J'étais pas inquiète pour l'environnement. J'étais consciente, mais je n'étais pas inquiète. Et ce que je trouve assez génial, c'est que des jeunes qui ont 15-16 ans, leur préoccupation ne soit pas forcément l'avenir, l'avenir scolaire, mais en fait, c'est
leur avenir
tout court. C'est-à-dire que dans 50 ans,
il y aura... Non,
et puis, elle parle des enfants, enfin, elle a 16 ans. Quoi. C'est
donc, il y a une grosse prise de conscience. Ouais. Et ça, justement, c'est assez positif. Et c'est peut-être ça qui est intéressant dans l'Europe, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays, hors Europe, c'est qu'il y a vraiment eu une énergie assez incroyable pendant quelques mois de la part de personnes qui ne sont même pas majeures.
Mais là aussi, c'est très drôle ce que tu dis justement, puisque Olwen, son argument, c'est de dire que depuis peu de temps, on est éduqué sur ces sujets-là. Et je pense que oui, il y a vraiment eu un décalage qui s'est fait en quelques années, et où d'un seul coup, dans les programmes scolaires, mais aussi à la télévision, dans les reportages, on a une vraie prise de conscience qui s'est faite et maintenant les jeunes sont éduqués et sont très conscients de ces problèmes-là et c'était pas le cas il y a 10 ans.
Et éduquent mieux leurs aînés.
Et éduquent mieux leurs aînés. Ouais. C'est ça qui est dingue.
Ça, c'est dingue. Ils se prennent une claque à chaque fois, quoi. Et moi, je trouve que c'est super intéressant parce qu'on prend, enfin, nous les jeunes, alors qu'on va vivre du coup plus longtemps que d'autres qui sont déjà en place au niveau de la politique, c'est qu'on comprend enfin et qu'on en parle et que les gens ils sont vraiment des réelles convictions. Quand j'en parle avec des gens, moi j'ai l'impression des fois de les saouler et tout, mais en fait ils sont tous conscients de ça à différentes échelles bien sûr, mais on prend conscience du problème et on peut dire que ça fait partie de notre identité et identité européenne. Donc là,
oui,
on
je
met
pense que c'est
deux.
Quelque chose qui vient de la culture européenne,
voilà.
En tout cas.
Ouais.
Donc finalement, est-ce qu'on peut dire que par nos engagements, on tend vers une identité. Moi, je pense que oui. Je pense que c'est un très gros argument pour se diriger vers cette identité européenne. Mais je suis pas d'accord quand Olwen dit qu'il y a une erreur politique. Je pense qu'en fait, on doit se dissocier des politiques là-dessus parce que c'est pas eux qui vont incarner notre identité. Je pense que même qu'une figure, c'est pas une figure politique, c'est pas quelqu'un qui va incarner cette identité.
Et justement, Tom, ça nous fait une belle transition parce qu'on va recevoir quelqu'un qui permet aux jeunes de s'engager dans l'Europe. On essaie depuis le début du podcast de comprendre ce qu'est l'identité européenne et s'il en existe une pour les jeunes aujourd'hui. Et si elle semble difficile et différente pour chaque personne, certains sont d'accord, certains sont contre, comme Olwen, il nous semble quand même que l'Europe sert à la construction de notre identité en tant que Français. Libre circulation, culture, engagement. Et nous recevons donc par téléphone pour nous expliquer comment l'Europe profite aux jeunes, le directeur de l'agence Erasmus+, France Jeunesse et Sport. Bonjour Mathieu Rumgus, merci d'être sur le plateau de 9 mètres carrés.
Merci pour l'invitation.
Vous êtes donc le directeur de l'agence Erasmus+, France Jeunesse et Sport à l'agence civique.
Exactement, au sein de l'agence du service civique.
Et alors, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce projet concrètement?
Alors, au sein de l'agence Erasmus+, France Jeunesse et Sport, on gère deux programmes européens, le volet jeunesse du programme Erasmus+, et le corps européen de solidarité. Donc en fait, le volet jeunesse du programme Erasmus+, donc ça recouvre une partie du programme Erasmus+. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le programme Erasmus, il y a deux principaux volets. Le volet éducation, donc, qui est le Erasmus un peu classique, qui est le plus connu, hein, qui concerne les échanges entre
étudiants les pays.
Ou jeunes dans le cadre scolaire. Donc, mais ce n'est pas cette partie-là du programme Erasmus qu'on gère. Nous, on gère l'autre partie, la partie jeunesse. En fait, c'est tous les échanges de jeunes en dehors du cadre scolaire. Donc ça peut être des échanges de jeunes entre associations, par exemple, sur des thématiques culturelles, par exemple. Enfin, en tout cas, c'est tous les échanges de jeunes en dehors du cadre scolaire au sein de l'Union européenne.
Et le corps européen de solidarité ?
Alors, le corps européen de solidarité, c'est un programme plus récent, puisqu'il a été créé en 2016 et généralisé à partir de 2018. Donc nous, c'est depuis 2018 qu'il est géré au sein de l'agence. Et en fait, le corps européen de solidarité, il a trois volets. Un volet volontariat, un volet stage et emploi et un volet projet de solidarité. Donc en fait, le volet volontariat, donc, qui permet à des jeunes de 18 à 30 ans de faire un volontariat dans un autre pays de l'Union européenne, donc sur des missions d'intérêt général ou missions liées à la solidarité. Donc ça peut être des missions assez larges, hein, sur des thématiques sociales, thématiques environnementales, culturelles, aide aux réfugiés par exemple. Et donc c'est des volontariats qui peuvent durer de 2 semaines jusqu'à 1 an. Donc ça, c'est pour le volet volontariat. Et sur le volet stage et emploi, donc ça peut permettre à des jeunes, pareil, de 18 à 30 ans, de réaliser donc soit un stage de 2 à 6 mois, soit d'occuper un emploi entre 3 mois et 1 an, pareil, sur une mission liée à la solidarité dans un autre pays de l'Union européenne. Et sur le troisième volet, le volet projet de solidarité, donc ce volet-là, il n'implique pas forcément une mobilité, mais il peut permettre à des jeunes de réaliser un projet d'intérêt général en local sur leur territoire, donc sur des... Avec d'autres jeunes, en fait, c'est réservé à des groupes d'au moins 5 jeunes.
C'était la semaine de la jeunesse européenne. Qu'est-ce que vous avez mis en place ?
En fait, cette année, le thème de la semaine européenne de la jeunesse, c'était la démocratie et moi. Hein. C'est un thème qui a été choisi par l'Union européenne. C'est notamment lié au fait qu'il y ait des élections européennes cette année. Donc l'Union européenne voulait inciter ses différents partenaires à organiser des choses liées à la démocratie. Mmh. Et donc nous, l'événement qu'on a organisé mardi dernier, on l'a fait en lien avec Démocratie ouverte. Démocratie ouverte, c'est une structure qui porte un incubateur et qui accompagne des entreprises ou des associations qui ont des démarches innovantes sur la démocratie. Donc avec eux, on a organisé un événement toute la journée de mardi. Et donc ça a permis à une centaine de jeunes de participer à un certain nombre d'ateliers sur des innovations démocratiques. Donc en fait, l'objectif de cette journée pour nous, c'était de faire réfléchir les jeunes sur la démocratie, de leur montrer que la démocratie, c'était pas uniquement le vote, mais que ça pouvait être plus large que ça. Et on avait aussi l'objectif pour nous de faire connaître nos dispositifs et de faire la promotion à la fois de Erasmus+, et du corps européen de solidarité.
Et dans le cadre de Erasmus+, est-ce qu'il y a des destinations ou des projets qui sont plus demandés par les jeunes que d'autres ?
Oui, il y a des. Au niveau des destinations, il y a pas mal de pays d'Europe du Sud qui sont assez demandés par les jeunes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes peuvent partir vraiment dans toute l'Europe, et ça va même au-delà de l'Union européenne. Et sur les projets, des thématiques qui reviennent assez souvent, on a pas mal de choses qui sont liées à l'environnement notamment, pas mal de projets aussi qui sont liés sur l'aide aux réfugiés.
D'accord.
Ça, c'est des thématiques qui reviennent assez régulièrement.
Et dans notre podcast, on se demande, l'angle aujourd'hui, c'est est-ce que les jeunes ressentent leur identité européenne ? Et j'aurais aimé savoir, vous qui êtes au contact des jeunes européens, comment vous caractériseriez cette identité ? Qu'est-ce que vous y voyez ?
Alors nous, les jeunes qu'on accompagne et les jeunes qui bénéficient de nos projets, clairement, ils se sentent européens, puisqu'ils font la démarche de chercher à aller dans un autre pays européen, de faire une mobilité dans un autre pays européen. De ce que je peux observer, des jeunes qui participent à nos projets, ce qui caractérise l'identité européenne, et ce qui renforce en tout cas l'identité européenne, c'est la possibilité de se déplacer facilement dans un autre pays européen, ça renforce l'identité. Et puis un certain nombre de valeurs communes qui sont partagées par les jeunes qui sont accompagnés par nos projets. Je pense notamment à la solidarité, c'est quelque chose qui est vraiment partagé par tous les jeunes. Et c'est le côté interculturel et la volonté de découvrir d'autres cultures, d'autres pays, c'est aussi quelque chose qui est partagé par les jeunes.
D'accord. Et merci beaucoup Mathieu Roumégous.
Avec plaisir, merci à vous.
C'est la fin de ce 8e épisode de 9 mètres carrés. Nous avons essayé de comprendre s'il existait une identité européenne. Je ne sais pas si nous avons pu répondre à la question, mais on a essayé de vous donner toutes les clés avec des entretiens avec de jeunes européennes, avec Olwen Falloon, président de l'association LUPA, pour comprendre la motivation écologique, avec également Mathieu Roumégouz, directeur de Erasmus+ Jeunesse et Sport à l'agence du service civique. Merci à PA d'avoir enregistré cette émission. Merci à Tom et Anaïs d'être venus sur ce plateau de 9 mètres carrés. Merci au public qui était présent dans ce studio, non pas de 9 mètres carrés, mais de 15 mètres carrés. Envoyez-nous des photos de vos 9 mètres carrés.